page 57. Deuxièmement, les opérations juridiques, judiciaires et administratives à la libération. La question de la gestion de l'héritage d'un régime putatif. Premièrement, la transformation du CFLN en gouvernement provisoire de la République française, GPRF, le 3 juin 1944. Deuxièmement, le rétablissement de la légalité républicaine. Troisièmement, l'épuration. Quatrièmement, les comités départementaux de libération et les collectivités locales. Page 58. Premièrement, la transformation du CFLN en gouvernement provisoire de la République française, GPRF, le 3 juin 1944. Le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est le nom donné au régime politique et aux institutions correspondantes qui, succédant le 3 juin 1944 au Comité français de la Libération nationale, CFLN, ont dirigé pendant 2 ans l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et de son empire jusqu'au 27 octobre 1946, date de l'entrée en vigueur de la 4e République. Il est créé officiellement le 3 juin 1944, la veille de l'arrivée du général de Gaulle en Grande-Bretagne à l'invitation de Winston Churchill, quelques jours avant le débarquement en Normandie. Donc, ordonnance du 3 juin 1944, c'est l'acte qui finalement change le nom. C'est pas une création, c'est un changement de nom du CFLN. Article 1er, le Comité français de la Libération nationale prend le nom de gouvernement provisoire de la République française. Article 2, l'adoption de cette nouvelle dénomination ne modifie en rien les dispositions des textes en vigueur relatives d'une part à l'institution et au fonctionnement des pouvoirs du Comité français de la Libération nationale, d'autre part à la constitution du gouvernement provisoire lors de la libération de la France suivant les termes de l'article 3 de l'ordonnance du 3 juin 1943 et de l'article 25 de l'ordonnance du 21 avril 1944. On le verra, qui est une ordonnance qui prévoit l'organisation des pouvoirs à la libération. Page 59. Deuxièmement, le rétablissement de la légalité républicaine. Donc, premièrement, les travaux du Comité national français de Londres. Deuxièmement, les travaux du CFLN d'Alger. Troisièmement, le débat final sur la méthode à retenir pour l'ordonnance du rétablissement de la légalité républicaine. Quatrièmement, les articles importants de l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine du 9 août 1944. Cinquièmement, évaluation difficile de l'héritage juridique selon Jean-Pierre Lecrome. Page 60. Premièrement, les travaux du Comité national français de Londres. À Londres, une commission de législation est instituée auprès du Comité national français. Elle est présidée par le commissaire à la justice et à l'instruction publique, René Cassin. La commission de législation va poser rapidement le principe général de la nullité des textes de Vichy, mais afin d'éviter tout désordre, un système d'une extrême souplesse est adopté. Il est ainsi distingué 4 catégories de textes. Les textes nuls, les textes qui sont annulés, les textes dont les effets sont validés, c'est-à-dire les textes qui sont abrogés, et les textes maintenus, soit en raison de considérations locales, ou parce qu'ils constituent un progrès sur l'état des choses antérieures. Cette grille sera notamment appliquée pour 2 textes importants préparés par la commission de législation, à savoir les 2 ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine à La Réunion et à Madagascar. Il est important de noter que la démarche suivie ici est celle de la nullité de principe, sauf exception limitativement indiquée. Page 61. Deuxièmement, les travaux du CFLN d'Alger. À Alger, alors que le Comité national se transforme en Comité français de libération nationale, CFLN, la commission de législation est transformée le 6 août 1943 en comité juridique. Ce comité, chargé de remplacer le Conseil d'État dans ses attributions consultatives, est à nouveau présidé par René Cassin, entouré de 7 membres, assisté par un personnel technique de 9 personnes, c'est-à-dire un tout petit bureau par rapport au Conseil d'État. Il est chargé de donner son avis sur les projets d'ordonnance. Il ne se contente pas de remarques de pure forme. Malgré l'insuffisance des moyens et des conflits internes, le comité juridique va mener un travail considérable pour le rétablissement de la légalité républicaine. Les règles en sont fixées par le général de Gaulle à la fin 1943, qui demande d'abord aux différents commissariats de procéder à l'examen critique des textes promulgués à Vichy depuis le 10 juillet 1940, et les invite sans attendre les résultats de ce dépouillement à préparer les projets d'ordonnance et de décrets destinés à remplacer les textes de Vichy dont l'annulation ne saurait être mise en doute ou qui ne pourront être repris qu'avec d'importantes modifications. Parallèlement, il demande au commissaire de désigner un collaborateur du comité juridique chargé du dépouillement en rapport avec les commissariats. Celui-ci dressera pour chaque commissariat le cadre dans lequel il propose que soient répartis par famille tous les textes qui peuvent être traités en bloc parce qu'ils concernent la même matière ou des matières apparentées entre elles. Lorsque les commissaires intéressés auront donné leur accord sur le principe de ces classifications, le comité juridique leur proposera d'appliquer à chacune de ces familles de textes l'un des trois régimes suivants. A, le droit commun de la nullité avec effacement des effets dans le temps, donc ça c'est l'annulation. B, la validation en bloc, ça c'est le maintien. Et C, abrogation globale simple avec validation des effets dans le passé, c'est tout simplement l'abrogation. Une ultime possibilité de modification est prévue pour les commissaires qui soumettent ensuite leur proposition au CFLN, qui est en définitive chargé de définir les principes de la politique à suivre pour chaque famille de textes. Page 62, troisièmement, le débat final sur la méthode à retenir pour l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine. La question principale est de savoir si le principe est l'annulation de la législation de Vichy, exception faite d'un certain nombre de textes ou de catégories de textes expressément énumérées, ou si à l'inverse, le principe retenu est celui de la validation globale de la législation sauf exception. Le premier principe, qui a toujours été celui de la France libre, a été appliqué pour le rétablissement de la légalité républicaine en Guyane en janvier 1944 et dans la côte des Somalies en septembre 1943. En suivant les principes utilisés auparavant pour Madagascar et la Réunion. Tandis qu'en Afrique du Nord, c'est le deuxième principe préféré par Giraud qui a été mis en œuvre. Le choix du principe de la validation en bloc sauf exception est également celui du commissaire à la justice François de Menton, avec des arguments portant sur l'importance du travail de révision qu'impliquerait la formule de l'annulation globale. Il nécessite en effet un inventaire méthodique des lois et décrets de Vichy qui n'est pas encore réalisé à la mi-mai 44, alors que parallèlement, le classement des textes de Vichy par famille ou par catégorie n'a été fait que dans les commissariats où un très petit nombre de textes est en cause, et tous ceux qui auront à faire des propositions portant sur des centaines de textes estiment cette classification impossible et entendent se contenter de présenter ces textes par ordre chronologique. À la mi-mai 1944, le débarquement sur les côtes de Normandie étant imminent, la solution pragmatique l'emporte. Lors d'une séance de la commission de législation et de réforme de l'État de l'Assemblée consultative provisoire, présidée par René Cassin, qui cumule ses fonctions avec celles de président du comité juridique, le débat Cassin de Menton est relancé, mais Cassin s'incline finalement devant le sentiment de la majorité en déclarant bien entendu « il ne faudra jamais parler de validation définitive, c'est au peuple français qu'il appartient de décider en dernier ressort ». Page 63. Quatrièmement, les articles importants de l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine du 9 août 1944. Page 63. Quatrièmement, les articles importants de l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine du 6 août 1944. Alors, ça, c'est les articles clés qui permettent de comprendre la mécanique propre à cette opération. Article 2. Sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur les territoires continentaux postérieurs au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Cette nullité doit être expressément constatée. C'est-à-dire que tout est nul, mais tant qu'on ne l'a pas mis dans une liste, ce n'est pas nul. Voilà. Article 7. Les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés continueront à recevoir provisoirement application. Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2. Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans les plus brefs délais possibles. Alors, il y a eu un certain nombre d'ordonnances, mais la nullité n'a pas été expressément constatée pour tout, ce qui fait qu'il y a un héritage de Vichy. Page 64. Cinquièmement, évaluation difficile de l'héritage juridique du régime de Vichy selon Jean-Pierre Lecrome. Vichy aurait promulgué 16 786 lois et décrets en 4 ans, à comparer par exemple avec les 1226 lois et décrets de 1994. Savoir ce qu'il en est resté pose de redoutables problèmes méthodologiques. Aujourd'hui, il reste 68 lois en vigueur, mais il ne s'agit souvent que de certains articles qui sont pour la plupart d'ailleurs tombés en désuétude. À défaut de pouvoir établir précisément un bilan de l'avenir du droit de Vichy, on retiendra que le choix pragmatique effectué par le gouvernement provisoire du principe du maintien de fait, sauf exception, des lois de Vichy n'a pas empêché un raz-de-marée législatif comme la France n'en avait sans doute jamais connu. Tous les textes attentatoires aux libertés publiques ou instituant des discriminations entre citoyens ont été annulés. Tout ce qui était le résultat de la politique de collaboration d'État avec l'Allemagne le furent également. Bien d'autres, plus anodins, les rejoignirent dans les poubelles de l'histoire. Il est vrai cependant que l'énormité de la production législative de Vichy et les contraintes que le gouvernement provisoire s'était lui-même imposées pour établir la légalité républicaine ont contribué à faire échapper quelques rares textes marqués de l'esprit de Vichy ou simplement de l'esprit du temps, à l'annulation ou à l'abrogation. Ceci ne représente toutefois qu'une infime partie de ce qui est resté. Les autres étaient essentiellement techniques ou s'inscrivaient dans des évolutions de fond du droit français, même si les circonstances si particulières de l'occupation ont souvent favorisé leur promulgation. Donc voilà, alors c'est une manière de vous présenter les problématiques qu'il y a eu pour le rétablissement de l'égalité républicaine à la Libération. On aura des problématiques similaires, c'était donc intéressant de se remémorer. Page 65, troisièmement l'épuration. Donc bon, là j'ai rappelé quelques faits, mais en fait l'idée est de souligner pendant l'épuration que se pose le problème de la rapidité, la fermeté avec laquelle on est obligé de procéder à l'épuration, parce que si on ne le fait pas, il y aura un certain nombre de règlements de comptes extrajudiciaires. Donc j'ai rajouté une petite chronologie pour montrer que finalement, donc on met en place des juridictions pour gérer différents types de clientèle. On essaye de faire ça assez rapidement et on est entre deux feux. Si on va trop lentement, eh bien, il peut y avoir des règlements de comptes, et si on va trop vite, eh bien, on peut faire mal. C'est d'ailleurs un peu le problème qu'il y a eu pendant cette période d'épuration. On note toutefois qu'on a attendu les exécutions des principaux cadres de Vichy et les emprisonnements pour commencer les élections législatives qui déclenchaient le processus constituant à proprement parler. On passait du provisoire au constituant. Donc on voit bien que le 15 octobre 45, exécution de Joseph Darnan et de Pierre Laval, alors que finalement les élections vont avoir lieu le 21 octobre. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle le règlement de la crise, hein. Donc libération et épuration, pour commencer le processus constituant. Voilà, pas simplement la libération, on a attendu également l'épuration. Page 66, quatrièmement, les comités départementaux de libération, CDL, et les collectivités locales. Premièrement, les CDL dans le programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 44. Deuxièmement, les CDL et les collectivités locales dans l'ordonnance du 21 avril 44 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération. Alors, il faut bien comprendre que le Conseil national de la Résistance fait partie de ces confusions souvent dans l'esprit de la dissidence. Le Conseil national de la Résistance n'est pas du tout un organisme public, c'est pas un organisme de droit public, c'est une confédération de mouvements de résistance. Il n'a pas de véritable rôle officiel. Il a une énorme influence sur le CFLN et sur la vie politique de l'après-guerre, mais ce n'est pas un organisme public. La véritable personne morale de droit public se revendiquant légitimement de l'autorité de l'État, c'est le CFLN. Donc en fait, le manifeste du 15 mars 44 a suggéré des comités départementaux de libération, mais le document qui fait autorité pour l'institution, c'est bien l'ordonnance du 21 avril 44 qui institue les comités départementaux de libération. Donc je présente à la fois ce qui a été à l'origine de l'élaboration et également l'acte qui les met en place. Vous verrez, ces CDL sont particulièrement importants pour la réinitialisation de la démocratie locale. Page 67. Premièrement, les CDL dans le programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 44. Donc je vous en cite un extrait qui en parle. Pour mobiliser les ressources immenses d'énergie du peuple français pour les diriger vers l'action salvatrice dans l'union de toutes les volontés, le CNR décide d'inviter les responsables des organisations déjà existantes à former des comités de villes et de villages, d'entreprises, par la coordination des formations qui existent actuellement, par la formation des comités là où rien n'existe encore et à enrôler les patriotes non organisés. Tous ces comités seront placés sous la direction des comités départementaux de libération. Ils seront soumis à l'autorité des CDL qui leur transmettront comme directive la plateforme d'action et la ligne politique déterminée par le CNR. Alors là, on était dans un fantasme soviétique, évidemment. Les communistes avaient beaucoup d'influence dans le CNR. On retrouve là la facture. Le but de ces comités sera à l'échelon communal, local et d'entreprise de faire participer de façon effective tous les Français à la lutte contre l'ennemi et contre ses agents de Vichy. Aussi bien par la solidarité et l'assistance active à l'égard des patriotes que par l'impulsion et le soutien donné aux revendications vitales de notre peuple, Par-dessus tout, leur tâche essentielle sera de mobiliser et d'entraîner les Français qu'ils auront su grouper à l'action armée pour la libération. Ces comités devront, selon les circonstances et en se conformant aux instructions données par les CDL, appuyer et guider toutes les actions menées par les Français contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation imposées par l'ennemi de l'extérieur et de l'intérieur. Donc ensuite, page 68, deuxièmement, donc l'acte officiel, véritablement, les CDL et les collectivités locales dans l'ordonnance du 21 avril 44 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la libération. Donc je commence par le titre 5, qui est après ce dont je veux parler, mais parce que c'est celui qui parle des comités départementaux de libération, donc c'est l'article 9, il n'y a qu'un article dans ce titre, l'article 19, qui parle des CDL, et ensuite il y a titre 1, conseils municipaux, titre 2, conseils généraux. Il n'y avait pas, à cette époque-là, de région, donc c'était les deux seules collectivités territoriales. Donc page 69, premièrement, titre 5, comités départementaux de libération, article 19. Dans chaque département, il est institué, dès sa libération, un comité départemental de libération chargé d'assister le préfet. Il est composé d'un représentant de chaque organisation de résistance, organisation syndicale et parti politique affilié directement au Conseil national de la résistance existant dans le département. Le comité départemental de libération assiste le préfet en représentant auprès de lui l'opinion de tous les éléments de la résistance. Il est obligatoirement consulté sur les remplacements des membres des municipalités et du Conseil général. Il cesse ses fonctions après la mise en place des conseils municipaux et des conseils régionaux selon la procédure prévue aux articles ci-dessus. Donc en fait, les articles ci-dessus, on va les voir après. Donc, page 70, titre 1, conseils municipaux. Premièrement, rétablissement des conseils municipaux, dissolution et remplacement par une délégation municipale. Deuxièmement, cas particulier et rôle des CDL. Article 9, mise à jour des listes électorales. Alors, page 71, premièrement, rétablissement des conseils municipaux ou dissolution et remplacement par une délégation municipale. Article 3, jusqu'au jour où il sera possible de procéder dans chaque commune à des élections régulières, les conseils municipaux élus avant le 1er septembre 1939 seront maintenus ou remis en fonction. En conséquence, les conseils municipaux dissous, les maires adjoints et conseillers révoqués ou suspendus après cette date sont immédiatement rétablis dans le droit, sauf le cas d'indignité pour délit de droit commun et sous réserve des dispositions qui suivent. Article 4, corrélativement, sont dissoutes en vertu de la loi du 5 avril 1884 et du décret du 26 septembre 1939, les assemblées communales nommées par l'usurpateur ainsi que les délégations municipales créées depuis le 1er septembre 1939. Sont révoqués de leurs fonctions les maires, adjoints et conseillers municipaux qui ont directement favorisé l'ennemi ou l'usurpateur. Article 6, les maires et adjoints décédés, démissionnaires ou révoqués conformément à l'article ci-dessus sont remplacés par élection au scrutin secret par le conseil municipal dès que celui-ci remplit les conditions légales de quorum. Article 8, lorsque du fait de l'ennemi des communes ont été par fusion ou agglomération ou autrement modifiées dans leur structure territoriale, le rétablissement du conseil municipal ou l'installation de la délégation spéciale s'applique à la commune telle qu'elle existait au 16 juin 1940. Alors ça nous donne des pistes à suivre ou pas déjà, mais ça peut nous inspirer. Page 72, deuxièmement, cas particulier et rôle des CDL. Article 5, les municipalités maintenues ou rétablies qui n'atteignent pas le quorum sont recomplétées provisoirement sur avis du comité départemental de libération par le préfet. Celui-ci désigne des Français et Françaises ayant participé activement à la résistance contre l'ennemi et l'usurpateur en tenant compte d'une part de la majorité exprimée aux dernières élections municipales et d'autre part des tendances manifestées dans la commune lors de la libération. Article 7, sont dissoutes les assemblées élues qui, maintenues depuis le 16 juin 1940, ont directement favorisé ou servi les desseins de l'ennemi ou de l'usurpateur. Ces assemblées sont remplacées par des délégations spéciales qui administreront la commune jusqu'aux élections. Les délégations spéciales sont nommées par l'autorité compétente sur avis du comité départemental de libération et composées par priorité des membres de la dernière assemblée élus restés fidèles à leurs devoirs et en outre de Français et de Françaises ayant participé activement à la lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur en tenant compte d'une part de la majorité exprimée aux dernières élections municipales et d'autre part des tendances manifestées dans la commune lors de la libération. Le nombre des membres des délégations est égal au quorum prévu pour le conseil municipal dissous par la loi du 5 avril 1884. Page 73, donc troisièmement, article 9, mise à jour des listes électorales. Dès l'installation de la municipalité ou de la délégation spéciale, l'administration communale entreprend la révision ou la reconstitution des listes électorales et procède à l'inscription sur ces listes des femmes devenues électrices. Un décret fixera les délais de procédure applicables à cette révision. Donc ça, c'est évidemment l'article 9 de cette ordonnance, c'est un article très important. Page 74, titre 2, les conseils généraux. Donc là, c'est exactement le même modèle que pour les conseils municipaux, en plus simple, en plus clair, en plus court. Voilà, je l'ai remis pour mémoire pour montrer le dispositif.